en tant que pédagogue, en tant qu'enseignante d'arabe qui a pour objectif d'amener ses étudiants à comprendre l'arabe, à progresser dans cette langue et à aimer l'apprendre, oui, on peut dire que l'arabe est une langue difficile à enseigner, mais pas forcément pour les raisons que l'on croit. Ce n'est pas une langue difficile en soi. Sa prononciation ne pose éventuellement problème que sur quelques sons, dans le cas de plus. En général, même c'est le nom de R roulé qui va poser plus de problèmes. Sa syntaxe essentielle, clairement. Et son vocabulaire, même si on peine à le retenir, découle d'un système morphologique ingénieux qui permet rapidement de comprendre un mot qu'on n'a jamais vu et d'en créer un tournant juste. Alors, qu'est-ce qui rend l'enseignement d'arabe si délicat? Dans cette présentation, je ne reviendrai pas sur la question du public d'apprenants dans le secondaire en France, ni sur les questions réelles de l'enseignement de l'arabe comme langue vivante étrangère et sa éducation nationale. Cette question sera abordée dans un autre atelier, c'est pas comme ça. Je m'intéresserai à la langue arabe elle-même, en elle-même, et plus particulièrement à l'enseignement de sa grammaire. Je reviendrai donc sur le contenu des grammaires arabes et des cours de langue. À bien observer l'enseignement de la grammaire arabe, on s'aperçoit que les enseignants véhiculent parfois une certaine idée de sacralité de la langue. L'arabe semble baigné dans un flou idéologique, mythologique et identitaire que peu de professeurs ont à cœur de clarifier. Or, en linguistique et en didactique aussi, le recul critique est nécessaire. Il faut prendre conscience de ce que l'on transmet sans réfléchir, et qui confine parfois davantage aux rumeurs grammaticales qu'aux faits réels de la langue, et ce que l'on omet d'enseigner par manque d'outils, par incertitude ou simplement par ignorance. Cela est d'ailleurs valable pour les disciplines. L'enseignant d'arabe hésite parfois entre véhiculer la tradition grammaticale purement et simplement et enseigner la langue contemporaine avec ses ambiguïtés et ses variations. Qu'est-ce qui peut alors l'aider à se positionner, à se faire une idée moins passionnelle et moins fantasmée de la langue? Pour moi, le dialogue entre chercheurs et enseignants est fondamental. C'est pourquoi je salue la tenue de ce forum et je remercie les organisateurs de m'avoir permis de communiquer en tant que linguiste, mais aussi en tant que professeur d'arabe. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le public se partage entre professeurs du secondaire, souvent d'autres disciplines, mais connaissant certainement la langue arabe, et enseignants et chercheurs spécialisés sur le monde arabe. Les uns ignorent peut-être tout de la langue arabe, mais vivent au quotidien les mêmes questionnements que ceux qui ont été les miens lorsque j'enseignais en collège et au lycée. Les autres pratiquent peut-être plus ou moins bien l'arabe, mais ils n'ont peut-être jamais réfléchi à la question de sa transmission à des élèves du secondaire comme langue vivante. J'espère pouvoir intéresser par ma contribution chacun d'entre vous. Je vais donc commencer par exposer les différentes raisons qui font de la grammaire arabe un objet de convergence et de cristallisation de fantasmes divers, qu'elles soient socio-historiques, religieuses, mythologiques ou même, on verra, idéolinguistiques. Alors, quels sont les lieux communs souvent cités, et d'ailleurs pas uniquement par les élèves, à propos de la langue arabe? Je voudrais brosser le portrait de ce concept qu'est la langue arabe en expliquant l'origine de chaque doxa. Tout d'abord, l'arabe est une langue sacrée. Alors sacrée, car c'est la langue du prophète de l'islam, la langue du Coran, choisie par Dieu pour sa clarté. Traditionnellement, on estime que la langue du Coran est celle de Mohammed, lui-même étant, selon la tradition, natif de Hejaz, une région de l'Arabie occidentale, chez la tribu des Quraysh. On dit que la langue des Quraysh est par syllogisme identifiée à celle du Coran. Cette identification de la langue du Coran au parler de la tribu des gens de la tribu du Quraysh, la Murat Quraysh, est due au texte même du Coran, au verset 4 de la sourate Ibrahim, verset qui proclame « Ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahu » que l'on peut traduire par « Nous n'avons envoyé d'envoyer que dans la langue de son peuple pour qu'il leur rende les choses claires et simples. » L'identification donc entre langue du Coran et langue de la tribu du prophète n'est pas linguistique, mais bien théologique. Elle ne repose en aucune manière sur une connaissance empirique qu'auraient eu les grammairiens arabes de la langue parlée, autant supposée de la prédication de Mohammed à la Mecque puis à Médine. Après cette conception théologique de l'arabe, certains grammairiens, comme El-Farra, mort en 822, ou encore Ibn Fayalis, mort en 1004, vont proposer une justification philologique de type sociolinguistique qui colle plus ou moins, mais plutôt bien, avec la version théologique. Alors, les Arabes de Quraysh, la tribu de la Mecque, un centre de pèlerinage, aurait sélectionné les meilleurs traits des autres dialectes pour façonner la meilleure langue arabe. C'est ce que l'on a pu techniquement appeler la koinéisation de l'arabe. Le fait de décrire la langue du Coran, l'ourad Quraysh, comme étant afsah al-ourad, c'est-à-dire la plus châtiée des manières de parler, trouve donc une justification sociolinguistique chez les savants de l'époque classique, même si, encore une fois, l'expression « afsah al-ourad » est d'inspiration coranique. On entend aussi souvent dire que l'arabe est une langue pure. La théorie de la corruption de la langue, en arabe « fasad al-ourad », apparaît comme le corollaire de cette conception théologique de l'arabe. L'arabe, donc l'arabe du Coran, celui des Quraysh, était pur à l'origine. C'est le mélange des arabes avec les peuples non-arabes qui l'a peu à peu dégradé. Selon cette théorie, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre mythique, c'est-à-dire du Hijaz et plus particulièrement de la Mecque, la langue devient moins pure et se dégrade. Je passe sur les développements et ajustements ultérieurs proposés par les plus grands noms des sciences arabes, comme Ibn Khaldoun au XIVe siècle, pour arriver à l'époque de la Renaissance arabe, la Nahda. Au XIXe siècle, les intellectuels arabes réfléchissent aux causes du retard du monde arabe par rapport à l'Occident et aux outils permettant d'accéder au progrès. La langue arabe tient une place fondamentale dans ces débats. La question qui se pose alors est de choisir une langue capable de transcrire la pensée d'un monde qui évolue techniquement. Faut-il opter pour une langue étrangère, le français, l'anglais ou autre? Faut-il écrire l'arabe parlé, c'est-à-dire écrire en dialecte? Ou faut-il au contraire faire revivre le bon arabe et l'enseigner partout? C'est cette troisième solution qui a été choisie. La langue arabe, cristallisant alors jusqu'alors les conceptions théologiques, va aussi prendre en charge les chimères de l'Union arabe et plus tard du panarabisme. À la fois islamo-centré et arabo-centré, l'arabe, qui commence alors à être qualifié de fusra, la plus éloquente, va s'opposer clairement au dialecte. Très vite, ceux-ci vont se retrouver le symbole d'une atteinte non seulement à la religion, mais aussi à la nation arabe. Le XXe siècle marquera l'ère de l'arabe considéré comme la langue du panarabisme, une langue unique pour une union de pays. Or, on sait très bien en réalité que l'union linguistique est conforme à l'union politique, c'est-à-dire quasi inexistante sur le monde arabe si l'on prend en considération que la langue maternelle des Arabes est le dialecte et non pas l'arabe. Si l'on considère le caractère idéologiquement sacré de l'arabe, que les raisons soient politiques ou religieuses, alors on comprend aisément que l'arabe soit vu comme une langue immuable. Ceci explique en grande partie, par exemple, l'absence de dictionnaire historique de l'arabe, mais aussi de bonnes descriptions réalistes des différents états de la langue. Ce manque de recul critique, enfin, va nourrir un autre préjugé qui a la vie dure, d'une manière très subjective. On entend souvent dire que l'arabe est une langue difficile. Il y a peut-être quelques fondements linguistiques à cela. Mais si l'on présente clairement les choses, notamment la question des diglossies diachroniques et diatopiques de l'arabe, alors on peut considérer que chaque variété d'arabe, prise comme une langue en elle-même, n'est pas plus compliquée qu'une autre langue. En réalité, les seuls arguments constamment avancés pour justifier cette image de l'arabe comme celle d'une langue difficile sont lexicaux. Je vais vous citer maintenant une présentation de la langue arabe trouvée sur Internet. Il y aurait 80 termes différents pour exprimer le miel, 200 pour le serpent, 500 pour le lion, 1000 pour le chameau, autant pour l'épée et jusqu'à 4000 pour rendre l'idée de malheur. Fin de citation. Voilà pour moi un bon exemple de ce que l'on répète et de ce que l'on peut lire sur une page qui se proclame encyclopédique, sans aucune conscience de l'exagération et de l'absurdité même de telles allégations. Mais ces réflexions amènent naturellement à s'interroger sur la place de la variation, notamment dans l'enseignement. Nous sommes brièvement revenus aux sources des différentes valeurs prises en charge par la langue arabe, un concept qui n'a cessé d'évoluer et de sanctifier symboliquement au cours de l'histoire. Les raisons historiques, sociales ou sacro-mythologiques qui font de la langue arabe une langue sacrée expliquent non seulement que les questions de l'étymologie ou de l'évolution de la langue restent un point délicat pour les Arabes, mais aussi que ces obstacles qui empêchent de prendre la langue arabe pour ce qu'elle est en réalité, à savoir une langue vivante, rendent l'enseignement de l'arabe comme langue vivante étrangère plus difficile. Ceci sans parler du contexte sociopolitique et identitaire pour le cas de l'enseignement de l'arabe en France qui rajoute aux difficultés déjà évoquées. Si l'on se place du point de vue des élèves du secondaire, Ils ont, pour leur immense majorité, été élevés dans un milieu culturel arabe et ou islamique, et ont à l'esprit ces mythes qu'on leur inculque comme des certitudes. La langue arabe, dans leur esprit, est sacrée, difficile, tellement belle et compliquée qu'elle en est inimitable. C'est sûr que s'il faut connaître quatre mots différents pour l'idée du malheur, ça semble compliqué à attendre. Pour ceux d'entre eux qui sont dialectophones, ils ont souvent intériorisé au plus profond d'eux-mêmes le mépris avec lequel on considère les dialectes. S'ils parlent un dialecte, ils ne le considèrent pas comme humain et ont même honte de l'utiliser. Alors que, comme ils le disent, le prophète parlait l'arabe classique. Et en Arabie Saoudite, les gens parlent parfaitement l'arabe classique. Ce sentiment d'infériorité est destructeur à un point qui n'est pas mesuré par le milieu scolaire. Depuis leur plus jeune âge, beaucoup de nos élèves vivent dans un mépris profond de leur langue maternelle ou de celle de leurs parents. Or, la langue étant un outil de pensée de communication fondamentale, on comprend aisément les problèmes de comportement qui peuvent découler de cette situation. Les enseignants, et pas seulement les professeurs d'arabe, pour moi, ont le devoir d'aider ces jeunes à revaloriser la langue arabe, à la percevoir telle qu'elle est réellement. Pour cela, l'outil le plus accessible est la discussion. Et les points de départ, d'après les réflexions d'élèves en classe, ne manquent pas. Je pense que les professeurs doivent saisir ces remarques maintes fois entendues, comme le dialecte n'est pas une langue. Ou alors, mais pourquoi est-ce qu'un français apprendrait l'arabe? Pour aborder toutes les problématiques et tous les lieux communs que l'on vient d'énumérer, il y en a d'autres. Tentons maintenant, par des exemples concrets, de voir comment la grammaire cristallise les différents mythes et les enrichit parfois. L'arabe est une langue hautement schizophrénique, du moins ses locuteurs. L'enseignant d'arabe doit lui aussi lutter pour ne pas devenir à son tour schizoglossique, c'est-à-dire linguistiquement schizophrénique, selon l'expression du sociolinguiste Louis-Jean Gallic. Pour cela, il doit être honnête vis-à-vis des données historiques de la langue arabe et surtout les présenter clairement à ses élèves, quel que soit leur âge et leur niveau. Pour illustrer mon propos, je me propose de prendre comme exemple le cas d'enseignement de la syntaxe. Souvent, les variations lexicales sont prises comme un jeu et rapidement acceptées. Mais c'est la structure même de la langue qui semble cristalliser toutes les idées reçues. Les quelques exemples que je vais donner m'ont d'abord été inspirés par un examen de conscience. Quand on exige de ces étudiants arabophones à l'université qu'ils utilisent la préposition « iba » après la locution du « nisba », on peut traduire par « contre », alors que l'immense majorité d'entre eux emploient la préposition « ni », ou quand on enseigne un système hypothétique à des lieux des réalisations concrètes de la langue, à tel point qu'en ouvrant n'importe quel journal ou n'importe quel roman, toutes les phrases conditionnelles peuvent contrevenir aux règles énoncées. Quand encore, on s'interdit de répondre, je ne sais pas, à la question d'un élève pour lui asséner une règle absolue, à la place d'exemples réels qui laisseraient la place à la variation. Quand on prend conscience de l'ampleur de ce décalage, concrètement, que peut-on faire? D'abord, je pense qu'il est essentiel de réfléchir à ce que l'on veut transmettre aux élèves, le savoir l'ivresse de la riche tradition grammaticale arabe, ou bien des outils pour comprendre et s'exprimer dans une langue vivante réelle. Si l'on opte pour la deuxième solution, qui n'exclut pas la première, on constate rapidement qu'on manque cruellement d'études linguistiques précises sur la langue contemporaine. Depuis quelques années que je réfléchis à ce problème, j'ai pris l'habitude de me fonder scrupuleusement sur les données d'un vaste corpus d'arabe contemporain avant d'enseigner un point précis. Il s'agit d'un corpus d'1,5 million de mots que j'ai personnellement constitué de manière à réunir des textes provenant de 7 pays arabes différents et de 3 genres différents, la littérature, les blogs et la presse. Parallèlement, je regarde comment le point de grammaire en question est décrit dans les grammaires, s'il n'en est pas absent. Je pars du principe que prendre en compte toute la richesse de la langue contemporaine dans la diversité de ses emplois, c'est amener plus facilement les élèves à aimer et à comprendre les finesses de la langue. C'est aussi lutter contre l'inoubliable et difficile. Effectivement, si toutes les règles que l'on vous apprend et que l'on vous demande d'expliquer vont à l'encontre de ce que vous pouvez trouver dans les textes ou entendre à la radio, comment ne pas trouver cela difficile? Au usage de l'arabe standard écrit, sans parler de questions orales, la grammaire enseignée est trop éloignée de la réalité des usages pour ne pas créer des blocages chez les élèves. Voici donc quelques exemples concrets de ce que l'on enseigne au détriment parfois de la réalité linguistique et qui plonge les apprenants dans une confusion telle que l'enseignement rigoriste de la grammaire m'apparaît être l'une des principales difficultés des élèves, en plus des problématiques socioculturelles, pouvant les conduire jusqu'au rejet total de la langue. Le premier exemple que je vais prendre est celui d'une rumeur grammaticale. On présente souvent la particule « ça » comme marquant le futur proche, par opposition à « ça » ou « pas » pour le futur lointain. Si l'on recherche chez les grammairiens classiques, cette distinction n'existe pas. Elle commence à apparaître dans les ouvrages didactiques, plutôt de mauvaise facture. Pourtant, c'est bien souvent ce que l'on enseigne, même si l'étude des textes arabes dit le contraire. Si l'on étudie la valeur temporelle de ces particules dans les textes authentiques, la distinction futur proche futur lointain n'apparaît pas. Pas exactement. Ce que l'on note davantage, en revanche, c'est le marquage modal de sa forme, qui introduit un futur plus volontaire, plus engagé, alors que la particule « ça » s'apparente au degré zéro du futur, un futur neutre du point de vue du locuteur. Sans entrer dans les détails statistiques ou sémantiques, ce que l'on peut dire, c'est que se priver de cette distinction en classe est vraiment dommage. Présenter la particule « ça » comme du futur proche et « ça » ou « pas » comme du futur lointain, c'est réduire à une opposition temporelle, une opposition modale dont l'étude permettrait aux élèves d'appréhender des aspects pragmatiques de l'arabe, de comprendre qu'utiliser un mot plutôt qu'un autre a des répercussions sur l'intention du locuteur et sur la perception de son interlocuteur. Même en leur expliquant les choses sans métalangage et tout à fait simplement, c'est leur montrer la richesse de la langue arabe, les outils qu'elle offre aux locuteurs pour affiner l'expression de leur pensée. Et colporter cette distinction, futur proche, futur lointain, qui n'existe pas en réalité, c'est priver l'élève d'une réflexion sur la langue, quelle qu'elle soit, comme outil fin de transmission de sa pensée aux autres. Comme second exemple, je prends celle d'une description inadéquate, la question de l'ordre des mots. Chez les grammairiens arabes, la question de l'ordre des mots fait l'objet de nombreux débats. Tous les cas possibles, et même tous les cas impossibles, sont répertoriés. En avançant dans le temps et en passant chez les orientalistes, on se rend compte que la place accordée à la question de l'ordre des mots s'est considérablement restreinte dans les grammaires, et surtout dans les grammaires didactiques, pour aboutir à une sorte de consensus opposant la phrase nominale, un thème, un propos, à la phrase verbale, le verbe d'abord, le sujet et enfin le contenu. La première marquant l'état, la prédication, la seconde insistant plutôt sur l'action. Or, dans la réalité des usages, c'est un peu plus complexe et la structure des phrases peut varier davantage. L'enseignant, sous l'emprise de ce moule, s'il a oublié qu'il s'agit d'une réduction des savoirs à des fins didactiques, va corriger ses élèves avec rigidité, là où l'étude plus détaillée des différents types de phrases l'amènerait à aborder avec eux la question des styles. Par exemple, inversion d'ordre des éléments dans les titres d'articles de presse ou en poésie. Ou bien la question de la limite entre des emplois qui peuvent être étranges, possibles, fautifs, voire inintelligibles. C'est là encore priver l'élève d'une réflexion sur les possibilités offertes par la langue au locuteur pour ménager ses effets sur son interlocuteur. Enfin, je parlerai d'un fait totalement absent des grammaires, celui des emplois modaux du verbe « kana ». Le verbe « kana » fait partie des mots les plus employés dans la langue arabe. Par ordre de fréquence, c'est le 10e mot après 9 particules. Donc dans les grammaires, deux emplois figurent, celui de marqueur temporel de passé, qui représente effectivement la majorité des emplois, mais aussi celui appelé par les grammairiens « kana istimrariya », un « kana » de continuité. Il tient une grande place dans les grammaires, car il s'agit d'un emploi coranique longuement commenté par les grammairiens. Pourtant, il n'est plus guère employé en arabe contemporain, même s'il continue d'occuper une place plus ou moins grande dans les grammaires. En revanche, il est un emploi courant et fondamental de ce verbe, totalement absent des grammaires. C'est celui à valeur modale. Pour un étudiant, il est quand même bien plus utile et pertinent d'apprendre à reconnaître les différentes valeurs du verbe, les valeurs temporelles, aspectuelles ou modales, que de savoir qu'il existe ou qu'il a existé un emploi de continuité. Cet emploi de continuité n'est jamais présenté qu'à travers des exemples désuets, alors qu'il pourrait aider à introduire les emplois modaux réels et contemporains de ce verbe. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas mettre en opposition l'héritage classique et les développements ultérieurs de la langue, mais il me semble qu'à destination d'un public de non-spécialistes, l'intérêt principal réside davantage dans la transmission des outils linguistiques permettant de comprendre finement les emplois actuels de la langue que dans l'assimilation d'un savoir livresque souvent déconnecté de la réalité des usages. Alors, pour terminer, je vais m'interroger sur les choix didactiques que nous devons faire. En citant une phrase, le titre d'un diaporama du linguiste Benoît Haber, très explicite, « Ce fait linguistique n'existe pas, je l'ai rencontré. » On pourrait aussi dire, pour l'arabe, de manière certes un petit peu caricaturale, « Ce fait linguistique ne s'emploie pas en réalité, alors apprenez-le et employez-le quand même. » l'enseignement parfois schizophrénique de la grammaire me semble être symptomatique de l'image que l'on se fait de cette langue et que l'on transmet de génération en dégénération, si je peux me permettre. Pourquoi certains enseignants n'adaptent pas davantage la grammaire qu'ils transmettent à la réalité du village? Par facilité, c'est une fausse raison à mon avis, car il ne me semble pas plus compliqué d'enseigner un arabe réel qu'un arabe fantastique. Par ignorance, après tout, tous les enseignants ne sont pas linguistes et ne sont pas formés à prendre au recul vis-à-vis de leur pratique, ce qui leur a été transmis. Dans l'enseignement secondaire, le manque de formation de qualité est criant, et les moments de rencontre pour discuter de ces pratiques et échanger avec les chercheurs, comme aujourd'hui, devraient être bien plus longs. La grammaire est un mot qui fait peur. Transmettre aux élèves, déjà souvent réticents pour l'arabe, des règles figées et éloignées de la réalité des usages, c'est leur inculquer une vision d'arabe comme étant une langue immuable et surtout difficile. Difficile parce que l'on doit produire différemment de ce que l'on peut lire et entendre. Cela renforce l'idée que l'arabe est une langue sacrée. Surtout, ne touchons pas aux descriptions qu'en ont fait les grammairiens de l'époque médiévale, à partir d'exemples coraniques ou inventés. Je renvoie ici au livre qu'a suscité une grande émotion dans le monde arabe lors de sa parution, et dont le titre est tout un programme, Tahya al-Lugha al-Arabiya, Tazkirat Sibawayh, de l'égyptien Sharif Shoubachi. Textuellement, le titre signifie « Pour que vive la langue arabe, abat le grammairien Sibawayh, grammairien considéré comme le père fondateur de la grammaire. » Ce livre a été traduit en français sous le titre « Ça déjà bien. » Prenons le parti d'enseigner et de valoriser l'arabe comme une langue vivante, riche, qui offre, comme toutes les langues, des outils divers et variés pour permettre l'expression juste et traduire finement la pensée humaine. S'affranchir du poids de la grammaire traditionnelle, dans la mesure où c'est nécessaire, c'est peut-être se libérer de certains préjugés qui collent à la peau et amener nos élèves à aimer cette langue pour ce qu'elle est réellement. Les choix opérés par les professeurs de langue, qui fassent preuve de suivisme grammatical, qui s'inspirent davantage des emplois réels, des locuteurs réels, pour orienter l'image qui véhicule de la langue arabe, soit comme une langue effectivement immuable, soit comme une langue vivante aux emplois pluriels, riches et divers. Pour moi, les enjeux dépassent largement le cadre scolaire. Il nous faut maintenant accepter de les considérer